Jean. Vous avez pas vu qu'on est jumeaux, non? On est jumeaux, non? On se ressemble pas, non? Hein? Dis-leur comment tu me présentes d'habitude.
Oh, d'accord.
D'accord. Comment tu me présentes?
Non, c'est mon frère. Ça se voit, non? Juste parce qu'il est vite sorti du four. Le four des fabrications. Moi, j'y suis resté plus longtemps. Gilles, depuis 10 ans, c'est 10 ans de fraternité, d'amitié, vraiment quoi. Et je remercie le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci pour l'opportunité de raconter encore mon témoignage. Et juste un mot de prière. Seigneur, merci, je te rends gloire au nom de Jésus. Parce que tu es merveilleux et tu es bon. Il n'y a personne comme toi. Ce soir, nous t'invitons en tant que tous des petits serviteurs. Mais nous avons la joie de servir le grand Dieu. Nous voulons que tu viennes nous montrer que l'impossible est possible avec toi. Et que nous, ensemble, notre limite sera le ciel. Sur la terre, tu permettras qu'on fasse toutes choses pour ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Bon. Ah. C'est fini le témoignage. Il a tout raconté. Merci. Bon, je m'appelle Moussa Kone. J'ai 62 ans. Je suis né le 21 avril 1953. Je suis père de famille. J'ai 6 enfants. La première, elle a 42 ans et la plus petite, elle a 14 ans. Je suis pasteur à Abidjan. Bon, je me suis donné à Jésus. Ça fait 28 ans maintenant. C'est le 21 avril, 25 décembre 1987. Bon, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis pasteur quand même de cette communauté qu'on appelle la Bonne Voie. La bonne voie, pourquoi la bonne voie? La bonne voie parce que quand on était musulman, pour prier les 5 prières, pour faire les 5 prières rituelles, il faut réciter la Fatiha. La Fatiha, c'est la première du Coran. Et vers le verset 3, il dit « Ihdina siratal mustaqim », ce qui veut dire que Dieu dirige moi sur le droit chemin. En fait, tous les musulmans récitent ça quand ils prient, demandent à Dieu de les diriger sur le droit chemin. C'est une bonne prière, mais des fois, il y a des personnes comme moi qui ont fini par trouver le bon chemin. Et quand nous avons trouvé le bon chemin, nous avons dit, nous sommes dans la bonne voie. Voilà. Parce que Jésus, déjà, il avait dit avant que l'islam ne soit créé, « Anna, moi, Roa, je suis, Tariq, le chemin, Walhaq, la vérité, Walhayat, la vie. » Il dit, Leïsa Achad, pas un seul, il a Ani qui ne vient à moi, il a Abi, il ne peut arriver au Père. Jésus avait déjà dit qu'il était le chemin, mais après, il y a une religion qui vient pour nous faire demander le chemin à chaque fois. Et souvent, on meurt sans trouver le chemin. Nous avons eu la grâce de trouver ce chemin, Jésus. C'est pour ça que le nom du ministère et de la communauté tout entière s'appelle La Bonne Voie. Donc, je suis pasteur, ma femme s'appelle Maïmouna. Maïmouna, elle est aussi mon assistante. C'est Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a à peu près dans l'église, on va dire, près de 75% de l'église, les membres de l'église, sont des anciens musulmans. Puis la vision du ministère, c'est... Dans la communauté, il y a un ministère, la vision, c'est d'apporter le témoignage de Jésus vers les musulmans, aussi d'apporter... de l'éclaircissement, de dire aux chrétiens que c'est possible. C'est possible. On peut sortir de la religion pour être disciple de Jésus. On peut sortir d'une doctrine pour être disciple de Jésus. On peut sortir de l'islam pour être disciple de Jésus. C'est possible et nous enseignons comment le faire. Voici donc. Voilà, vous savez un peu. Bon, moi, je suis le troisième fils, le troisième enfant, de Ibrahim Akone. Mon père s'appelait donc Ibrahim Akone. Il était imam à ma naissance. Mais mon grand-père aussi était imam. Et mon grand-père, il avait 40 enfants. Bon, mais... Allez-y, les plus jeunes. Lui, il avait 40 enfants. Et parmi les 40, il y avait 13 imams. Et moi, j'ai suivi, je suis devenu imam 10 ans, pendant 10 ans, donc, depuis la génération de mon père, je suis 14e imam, alors. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est pas la langue principale, c'est pas l'arabe, mais c'est le français. Donc, là, pour étudier le Coran, c'est un peu compliqué. Mais voilà que, quand j'avais 3 ans, mon père... Il me disait une chose. Tu es Moussa. Moussa, il disait, Moussa, tu es musulman. Ton Dieu, c'est Allah. Ton prophète, c'est Muhammad. Voilà, un enfant de 3 ans. Il me répétait ça au moins 5 fois par semaine. Donc, même à 3 ans, je savais qui j'étais. Et quand j'ai eu 5 ans, il me disait, Moussa, ton Dieu, c'est Allah. Tu es musulman. Et ton prophète, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras imam comme ton père. Tu seras imam comme ton grand-père. Également, ça, il me le disait au moins 5 fois par semaine. Donc, à 5 ans, je savais qui j'étais et qui je devais devenir. Un imam comme mon père, un imam comme mon grand-père, un imam comme 12 de mes oncles. C'était là, dans ma vie, c'était clair. Et après, en âge adulte, j'ai été imam pendant 10 ans, mais un jour, chez nous, pour tout ça, il faut apprendre le Coran. Et le Coran, il est composé de 114 chapitres. Il y a plus de 6000 versets. Et donc, pour apprendre le Coran, puisque nous ne sommes pas des arabophones, réellement, nous sommes francophones, le Coran est un livre qui est un peu plus petit que le Nouveau Testament, 114 chapitres. Il faut apprendre d'abord à articuler les mots, chaque phrase. Et puis, on a fait ça, on a terminé. Ça a mis 5 ans. 5 ans, je pouvais articuler, je pouvais tout réciter, tout lire, mais sans comprendre le sens d'un seul mot. Alors, ce n'était pas fini. Il faut donc revenir pour apprendre le sens de chaque mot. C'est de l'arabe classique. Mais chaque mot. Et ça aussi, ça met 5 ans. Donc, quand j'avais l'âge de 14 ans, environ 14 ans, j'avais fini. Et c'était, pour nous, c'était une grande joie quand tu finis de lire tout le Coran, que tu comprends ce qu'il y a dedans. Mais c'est un exploit. Et c'est une joie, c'est une fierté pour toute la famille. Et donc c'était comme ça, un jour, les maîtres coraniques sont assis là, et puis il faut venir s'arrêter devant eux pour réciter par cœur 114 chapitres, plus de 6000 versets. Et puis bon, donc j'ai pu le faire, parce que pour moi, j'aimais l'islam, j'aimais mon père. Il était pour moi un héros. Je l'ai vu que servir son Dieu. Donc ça me plaisait. Mais nous étions, c'était moi aussi né en 53, à cette époque-là, il fallait quand même aller à l'école française. Mes aînés, on est 3 enfants. On était 3, il y en a un qui est parti chez le Seigneur, mais lui, il avait accepté Jésus. On est resté 2. Les 2 autres étaient à l'école française. Moi, mon père a dit, non, il faut que tu restes à la maison pour apprendre le Coran. Et comme j'avais des problèmes de vue dès l'enfance, je suis quand même allé au CP1, mais j'ai duré, tout a duré 3 semaines. J'ai fait 3 semaines d'école française, quoi. Ça n'en est pas. J'étais même aveugle. Je suis revenu. Voilà, suite à une opération, j'ai recommencé de voir un peu. Et puis, c'était... Donc, maintenant, j'étais à la maison. Personne ne pouvait me dire... va à l'école française. Donc j'étais très bien heureux d'apprendre le Coran, rien que ça. On est resté, c'est ainsi qu'on a tout terminé. Alors, on avait repris, on a pris le tafsir, l'exégèse du Coran. Le tafsir, c'est vraiment l'exégèse, les commentaires, tout ça, vraiment savoir ce que c'est. Alors, quand on était en train de faire ça, moi, j'ai eu à poser une question trois fois à mon père. Je lui dis, pendant que nous sommes en train de lire le Coran, si la mort nous surprend, est-ce que nous allons aller au paradis? C'était ça, quoi. Parce que, en lisant le Coran, j'avais vu à quoi ressemblait le paradis selon le Coran. J'avais aussi vu à quoi ressemblait l'enfer selon le Coran. Mais de loin, le paradis était meilleur. Et moi, je voulais aller au paradis. Mais bon, je pose la question à mon père, qui est mon enseignant. Il a réfléchi et il m'a répondu. Il dit, tu sais, on ne peut pas savoir de notre vivant. La réponse à la question, c'était ça. On ne peut pas le savoir. Mais c'est après la mort, il y aura, au jour du jugement, des balances qui seront érigées, qui vont peser les œuvres de chacun d'entre nous. Et si nous avons plus de bonnes actions, là, on ira au paradis. Mais si c'est l'inverse, que Dieu nous garde, c'est l'enfer. Mais de notre vivant, on ne peut pas savoir. Le Père, il avait répondu comme ça, mais sa réponse était vraiment scripturaire. C'était la vérité, c'était la doctrine, c'était la vérité du Coran. Et donc, il savait que moi, je pouvais lire aussi, je savais. Donc, c'était pas... Il m'a dit la vérité. Et cette réponse m'a vraiment touché. Pas parce que ça vient de lui, mais c'est la réalité religieuse et scripturaire, comme je l'ai dit. Et vivre en sachant à quoi ressemble le paradis. Vivre en sachant à quoi ressemble l'enfer. Et ne pas savoir si il faut aller au paradis ou en enfer pendant qu'on est vivant. Mais attendre jusqu'après la mort, pour moi, c'était pas bon. Alors, ça fait qu'il y a un seul canal entre les deux lieux. Entre le paradis et l'enfer, c'est la mort qui est le seul canal. Et je savais qu'on pouvait mourir à tout moment. Et pour moi, mourir sans savoir où aller après la mort, sans savoir où passer l'éternité, j'étais pas bien, moi. Donc, j'étais très mal, j'étais angoissé. J'avais la peur du lendemain. Et même des fois, quand j'allais me coucher, je me réveillais en sursaut. Je regardais autour de moi, quand je voyais les murs de la maison, je me dis, mais je suis encore sur terre, mais si ce n'était pas le cas, quelle serait la position de mon âme? Alors, je n'ai pas eu une enfance innocente. J'étais pas joyeux, j'étais pas bien, j'avais peur de la mort, peur de la mort. Mais tout de même, j'ai continué d'étudier le Coran avec mon père et le tafsir, tout ça. Mais à un moment donné, mes parents n'étaient pas riches, il fallait que je fasse des petits travaux pour les aider. Mes aînés, ma sœur, elle avait déjà commencé à enseigner au primaire, et puis elle s'est mariée, donc mon frère avait eu son bac à 18 ans à l'époque, il est né en 50. Il était venu en France pour faire l'université, des études supérieures. Donc lui, il est retourné qu'à l'âge de 40 ans. Il avait 3 doctorats quand il est reparti au pays. Mais j'étais seul avec les parents. Mon père était honoré, un imam, mais on n'était pas riche. Entre-temps, moi, je faisais des petits boulots pour aider la famille. Et le soir, je me retrouvais à la mosquée. J'ai fait ça jusqu'au jour où j'ai eu un contrat de 2 semaines sur une plateforme de forage pétrolière. Il y avait le pétrole en Côte d'Ivoire. Et il y a des plateformes qui étaient venues pour faire le forage sur les eaux. Là. Je suis parti pendant 6 mois. J'ai postulé juste voir quelqu'un va manquer. Si quelqu'un manquait, je pouvais le remplacer. Pendant 6 mois, j'ai eu une occasion un jour de monter. Ce travail est très dangereux. Je n'en avais jamais fait. Je n'ai jamais travaillé en mer. Mais j'étais poussé de faire quelque chose pour mes parents. Alors là, les choses vont se préciser. Il y a un monsieur qui a manqué l'embarquement. Et le recruteur, là, il m'a dit, c'est ton tour, petit. À l'époque, j'avais quoi, 25 ans, je pense. Alors, je suis content, je suis monté. Et alors, comment c'est? Il fallait pas... Tout était anglophone. Le commandant était américain. Il y avait des Britanniques, des Irlandais, des Philippiens. Que l'anglais. Il m'a fallu 2 jours pour parler l'anglais. 2 jours. Mais tu peux rien faire si tu peux pas parler anglais, tu travailles pas. Même un tournevis, quoi, pas d'or, tu peux pas savoir. Mais il fallait que je travaille. Alors, 2 jours, c'est passé. Et 2 semaines, j'avais tellement bossé, j'avais pas de diplôme, pas de qualification, mais je pouvais toucher à tout sur le bateau. C'est pas compliqué. Voilà, tu as une surface, il y a de l'huile. On te dit, tu nettoies tout, mais tu peux tout nettoyer. C'est pas compliqué, ça. On me donne de matin, on faisait 6 heures du matin, à 18 heures le soir, on travaillait 12 heures par jour. Il me dit, mais jusqu'à midi, tu finis ça? Mais moi, en 1 heure de temps, j'ai fini. Si bien qu'après 2 semaines, mon remplaçant, le titulaire du poste, quand il devait remonter, ils ont refusé. Il dit, non, le petit travaille mieux. Et ce contrat a duré 7 ans. Il y avait quelque chose de spécial pour moi. Le commandant de bord était un Américain du Mississippi, M. Wedford. Finalement, on a fini de travailler en Côte d'Ivoire. On se retrouvait dans le golfe du Mexique. Un équipage de 200 personnes. J'étais resté le plus jeune, le seul Africain, le seul noir à bord. Les autres étaient remerciés. Ils m'ont gardé. Alors le commandant, il s'est intéressé à moi. Il dit, tu t'appelles Moussa? Je dis, oui. Tu es musulman? Je dis, oui. J'étais bien content. J'affichais ma religion. Il dit, un musulman? Je dis, yes, sir, un musulman. Alors il me dit, ce soir, je viens te voir dans ta cabine. Moi? Vous allez venir dans ma cabine? C'est étonnant, c'est la plus grande personnalité à bord. Et moi, je suis la plus petite personne. Alors, mes heures étaient 18h, j'ai fini. À 20h, j'ai fini de prier. Je suis dans ma cabine, je lis le Coran. Et j'entends frapper à la porte. C'est M. Wedford. Ah, il a un bon sourire, ce monsieur. Quand je l'ai vu, là, j'ai ouvert la porte, j'étais heureux. C'est comme si le président de la République te rendait visite. J'étais bien content. Mais tout de suite, j'ai vu dans sa main un livre noir. Et ce livre noir, c'était écrit en lettres d'or, Holy Bible, Sainte Bible. Je dis, quoi? Il va rentrer dans ma cabine avec le livre des chrétiens? Mais ça, c'était pas la bonne chose pour moi. Alors, j'étais, ça a tourné un coup. J'étais pas content. Mais voilà, c'est une cabine, il y a une chaise, il y a un lit, il y a une table, il y a la douche de l'autre côté. L'endroit le plus confortable, c'est le lit. Et M. Wedford, il s'invite sur mon lit, s'assoit. Et puis, je crois, il a posé le livre à l'endroit où je mets la tête. Et là, c'était vraiment fort. C'est un geste de trop. Alors, j'ai regardé là, un hublot du bateau, petite fenêtre. Et puis, je suis venu là, sans rien lui dire, j'ai saisi la Bible, je pense, avec 2 mains. Et puis, je suis venu jusqu'à la petite fenêtre. J'ai jeté par-dessus bord. C'est tombé dans la mer. La Bible est tombée dans la mer. Je regardais un moment flotter comme ça. Puis j'ai soupiré. J'étais bien content. Il avait osé. Tu vois, il y avait quelque chose qui... Alors pendant que j'ai regardé, il est venu. Il m'a touché l'épaule droite. Je me suis retourné et souriait jusqu'aux oreilles. Ça m'a fait mal. Parce que je voulais lui donner un pinch, mais il a bien amorti, il souriait. Je me dis, les chrétiens, c'est pas possible, on ne peut pas les avoir. Et puis, je lui ai dit quand même, tu es maître, vous êtes maître à bord, vous commandez homme et machine. Mais vous êtes entré dans ma cabine avec la Bible, ça veut dire que vous voulez me parler de Jésus. Si vous recommencez, je débarque, je vais chez moi. Chez moi, ce n'était pas la porte d'à côté, on était dans le golfe du Mexique. Et il a juste souri avec moi. Il avait l'âge de mon père. Il m'a dit, ok, doucement, fils. Doucement, mon garçon. Et puis, c'est fini. Cet homme, il a commencé à s'attacher particulièrement à moi. Il ne m'a jamais parlé de Jésus. Mais il avait un sentiment d'amour. Il était très proche de moi. On était 200 personnes à bord. Mais chaque fois qu'il sortait de son bureau, il demandait où je travaillais. Parce que tout le monde voulait travailler avec moi. L'ingénieur, tout le monde. Donc, une fois qu'on lui dit où je travaille, il va et me trouver là-bas. Cette fois-ci, là, ce jour-là, il m'a trouvé dans les moteurs avec l'ingénieur mécanicien. Je faisais un décrassage. Il faisait chaud dans le groupe électrogène, fait chaud là-bas. Il est venu avec une canette de coca bien glacée, mais il m'a arrêté de travailler un moment. Il me donne à boire. Et tout l'équipage s'intéressait, s'interrogeait, qu'y a-t-il entre ces deux personnes? Moi-même, j'étais étonné. Juste, il me racontait sa vie, tout simplement comme ça. Le commandant qui est devenu mon ami, bizarre. Jusqu'à ce que j'ai passé 4 ans, je partais en vacances. Il m'a accompagné sur le toit. L'hélicoptère est venu me chercher pour l'aéroport. Et je lui ai dit, toi tu es riche, tu m'as expliqué, tu as un hélicoptère, tout ça. Mais moi, tout ce que j'ai eu, ça va finir quand je vais arriver parce que ma famille est pauvre. Il m'a dit, non, pas que je sois aussi riche. Il est difficile à un riche d'entrer au paradis. Autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Oh, moi je ne peux pas savoir que c'est une parole de la Bible. J'ai dit, mais où est-ce qu'il a sorti ça? Ça m'a marqué. J'ai dit, cet homme aime Dieu, mais ça me gêne qu'il soit chrétien. Alors je suis venu chez moi, j'ai trouvé un ancien collègue qui avait débarqué, il m'a donné une invitation. Il dit, un Américain à Abidjan dans le quartier Cocody qui veut te voir. Américain, j'ai dit, j'ai fait 4 ans avec eux, je n'ai pas besoin d'Américain, je l'ai laissé là. Et puis je suis parti à la mosquée avec mon père, j'ai fait 9 mois. Quand je viens, il se repose, moi je conduis la prière. Et je suis reparti à bord. J'ai fait 1 an de travail pour d'autres vacances, je suis revenu. Et j'ai trouvé le même monsieur au même endroit, avec la même invitation. Du coup, j'ai compris que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. J'ai dit, il y a un Américain qui veut te voir. Je suis parti, j'ai trouvé un jeune Américain de mon âge à l'époque. Et puis on a parlé, il parlait l'arabe. À l'époque, je parlais bien l'arabe. Il parlait l'arabe. Un Américain qui parle l'arabe, sans doute c'est un musulman, je me suis dit. Alors, on a regardé le Coran, on a parlé de ça, tout ça, sans toucher la Bible. Je n'ai pas vu de Bible, que le Coran. Et quand on a fini, après notre entretien, on s'est salué, je partais, et il m'a dit une chose. Moussa, you know, I'm saved. Moussa, tu sais, je suis sauvé. Ah, je dis, mais si tu es sauvé, c'est bon pour toi. Mais à peine j'ai donné mon dos, il y a cette voix-là que j'ai entendue de l'intérieur de moi jusqu'à mes oreilles. Voilà un homme qui dit qu'il est sauvé. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Voici un être humain comme toi qui sait qu'il va aller au paradis après sa mort. Et toi, Moussa, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité? La voix continue de me répéter ça. Est-ce que tu sais où tu vas mourir? Où tu vas passer l'éternité? Le problème que j'avais depuis l'âge de 14 ans, là j'avais 35 ans maintenant, ce même problème est revenu. L'angoisse, la peur du lendemain, la peur de l'éternité. Et j'ai perdu toute joie, toute paix, tout est parti. Et là j'ai compris que la paix, l'argent ne donne pas la paix. Même la plus belle maison ou la plus belle personne, le plus bel homme ou la plus belle femme ne peuvent donner la paix. Seuls ceux qui savent où vont passer l'éternité peuvent avoir la paix. C'est Dieu qui donne la paix. Donc là, quand j'ai senti ça, j'ai dit, bon, cette fois-ci, je m'en vais à bord. Il faut que je prenne d'autres mesures pour pouvoir scruter le Coran. Pour moi, le Coran, c'était la parole de Dieu. Donc j'avais une version déjà, français-arabe. J'ai pris une autre, anglais-arabe. C'est parti. Je veux enfin finir avec cette affaire. Je ne sais pas si aujourd'hui, toi, tu sais où tu vas passer l'éternité. Parce que l'essentiel, à l'époque, l'essentiel de l'existence d'un être humain, c'est de savoir où passer l'éternité. Je ne savais pas ça. C'est pourquoi mon âme était malade. Et moi, j'ai décidé de finir avec la question. Peut-être toi, ce soir, tu le sais. Si tu ne sais pas, avant la fin de cette réunion, il faut que tu aies réglé la situation. Parce que le rendez-vous de la mort ne peut pas être ni différé, ni annulé. Il faut être prêt à rencontrer ton Dieu. C'est ainsi que je suis parti dans l'optique, après le travail, de rechercher dans le Coran pour trouver une assurance. Je veux savoir où je vais passer l'éternité. Et le livre qui était pour moi, le livre de Dieu, c'était le Coran. Donc c'est lui qui peut me dire. C'est pas compliqué. J'arrive, donc le soir, Après le travail, après 20 heures, je suis assis dans ma cabine. Et j'ouvre le Coran. Je veux savoir. Je ne veux pas attendre. Maintenant, je veux savoir où passer l'éternité. C'est ainsi que j'ai ouvert la 100e sourate à partir du verset 3. Il dit comme ça en arabe. Inna lizan li rabihi la kanud wa inna hu al zalika la shahidun wa inna hu li rabbi li kayri la shadidun. Quand il dit inna lizan, c'est-à-dire tout le monde, l'être humain, tout être humain, li rabihi rabbi c'est auprès de son Seigneur, la kanud est ingrat. Littéralement, c'est comme ça. Tout être humain est ingrat auprès de Dieu. Et l'ingratitude, c'est le péché. Ça veut dire que, en fait, tout le monde pèche contre Dieu. Le verset 100e sourate, à partir du verset 3, il dit que tout être humain est péché. Pas seulement ça, est pécheur, mais il veut dire que l'être humain est ingrat envers Dieu, donc pécheur, mais il est témoin du péché qu'il commet et il sait que Dieu sait qu'il est témoin du péché qu'il commet. Alors ça veut dire que le Coran disait que moi, Moussa, je suis pécheur et je suis témoin du péché que je commets. Et je sais que Dieu sait que je pêche. Bon, si cette conclusion, elle est claire, selon l'écriture là, je dis, mais la question, je commence à réfléchir, je n'ai pas demandé à exister. Je suis né, le Coran me donne une identité pécheur. Mais avec ça, moi je vais quand même aller au paradis. C'est simple, je veux aller au paradis, même si je suis pécheur, étant donné que je ne me suis pas créé moi-même. Je veux aller au paradis. Voilà comment je pensais. Alors je continue de chercher la 101e sourate du Coran. Il dit: Fa amaman sakulatima wazinuho, fa huwa fi shati radiyati. Wa amaman kafatima wazinuho, fa umuhu khawiyati. Wa ma adrika ma khiyaha naru khamiyat. Il dit: Si tes œuvres pèsent du bon côté, si tu as plus de bonnes œuvres que de péchés, tu vas au paradis, mais si c'est l'inverse, Nar Hamiyat, c'est le feu ardent. Tu vas aller dans le feu ardent. Alors, la 100e sourate du Coran me dit que je suis pécheur. La 101e me demande de faire plus de bonnes actions que de péchés. Alors, tout de suite, je réfléchis. Comment, en tant que pécheur, mes œuvres bonnes peuvent surpasser les péchés? Alors que j'avais 35 ans. 35 ans, je ne connaissais pas, je n'avais pas la comptabilité de mes œuvres. Je ne savais pas si j'avais de bonnes ou de plus de péchés. Je ne savais rien de tout ça. Donc logiquement, je ne pouvais pas savoir ma destinée finale. Voilà. Là, c'était quand même difficile pour moi. Ça fait 28 ans maintenant, je raconte avec moins de passion. Mais à l'époque, des fois, en cherchant dans le Coran, au travers de mes lunettes, mes larmes tombaient sur le Coran. C'est comme si j'étais un malade qui cherchait un remède, mais tout ce que le Coran m'a donné, pas la thérapie nécessaire pour guérir. Dans les 114 chapitres, plusieurs fois il est dit que Dieu est miséricordieux et compatissant, il pardonne les péchés, mais il faut passer par la balance absolue. Sur 114 chapitres, 113 fois c'est dit. Même dans la 19e sourate au verset 71 et 72, ces deux versets disent: tous seront précipités dans l'enfer, puis Allah va ressortir ceux qui le craignent, et les autres vont rester dans l'enfer. Tout ça dit, c'est dit que tout le monde va entrer dans l'enfer. Et puis après, il va soustraire ceux qui le craignent véritablement, les autres vont rester dedans. Parce qu'il n'y a pas de système d'expiation. Si même tu as plus de bonnes actions, qu'est-ce que tu fais des péchés? Il faudra y aller pour payer les péchés d'abord avant de sortir. Alors moi, je ne voulais pas transiter par l'enfer. Je voulais aller directement au paradis. C'était triste. J'étais jeune, encore vigoureux. Je pesais 80 kilos. En l'espace de 3 mois, mon poids a chuté. J'ai perdu 20 kilos jusqu'à 60 kilos. De 80, je suis tombé à 60 kilos. Parce que j'avais un problème avec Dieu. Je ne savais pas où aller après la mort. Et les gens, les collègues à bord me demandaient: mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas expliquer. à un homme qui travaille en mer. Tu peux lui parler de Dieu. Ils ne veulent pas. C'est l'alcool et l'argent, la cigarette, la drogue qui est leur Dieu. Mais dis, Moussa, what is happening to you? Tu maigris. Je ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai un problème avec Dieu. Je suis seul avec mon problème là. Donc, pendant 3 mois de recherche dans tout le Coran, il n'y a pas un seul verset que j'ai trouvé qui puisse me donner l'assurance de mon salut. Pas trouvé. Alors, j'étais confronté à cette réalité de fermer le Coran. Je suis resté là avec. Et un soir, il y a cette voix qui m'a encore, qui est venue en moi. Il n'y avait personne avec moi. Il y a une voix qui dit à mes oreilles, prends le Coran, cherche des informations concernant la Bible. Alors, parce que quand j'étais à terre, quelquefois les chrétiens avaient tenté de m'évangéliser. Je leur disais, votre Bible, elle est fausse et tout ça. Ça s'est terminé très mal au milieu de nous, entre nous. Et mais tout seul, la voix me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Alors j'ai ouvert, deuxième sourate, c'est chapitre, donc chapitre 2, verset 135. Et dit Koulou, c'est Koulou, ça veut dire dites, Ammanabila, nous croyons en Dieu, Zila, il est là, nous croyons en ce qu'il nous a fait descendre, Zila, Allah Ibrahim, ce qu'il a descendu, a donné à Abraham, ou à Ismaël, ou à Isirab, Yacoub, Lassibati, nous croyons ce qu'il a donné au prophète. Au moment où Tia Moussa, et nous croyons ce qu'il a donné à Moïse. Au moment où Tia Isa, nous croyons ce qu'il a donné à Jésus. Au moment où Tia Nabiyun, nous croyons ce qu'il a donné au prophète. Et nous croyons aussi à ce qu'il a donné aux 12 tribus d'Israël. Nous nous soumettons à eux. Alors, le verset 135 de la deuxième sourate dit, il faut croire à ce que Dieu a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, même aux 12 tribus d'Israël, et ensuite au livre que Dieu a donné à Moïse, et au livre que Dieu a donné à Jésus, et à ce qu'il a donné à tous ses prophètes. Et si tu ne crois pas, tu n'es pas musulman, tu n'es pas soumis. Il dit comme ça, Koulou, Koulou c'est au pluriel, Kala c'est singulier, Koulou, croyez, dites, confessez, Amanabilach, nous croyons en Dieu. Autant nous croyons en Dieu, autant nous croyons à ce qu'il a révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, les 12 tribus, et nous croyons à ce qu'il a révélé à Moïse, à Jésus et aux prophètes. Alors, je m'interroge, je me pose une question. Voilà, le Coran me dit de croire entre autres livres, au livre qu'il a donné à Moïse. Et le livre que Dieu a donné à Moïse s'appelle Taurat, en arabe. Et c'est la Torah ou c'est le Pentateuque. Le Coran me dit, crois à ce livre. Mais le livre, la Torah, le Pentateuque, il n'est pas à l'intérieur du Coran. Il y a l'histoire de Moïse dans le Coran, entre plusieurs chapitres. Et puis après, il me dit, crois au livre que Dieu a donné à Jésus. Quel est le livre que Dieu a donné à Jésus? C'est Injil, c'est l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas dans le Coran. C'est un livre à part. Il y a les histoires de Jésus, il y a l'histoire de Jésus entre plusieurs chapitres. Mais son livre, le livre que Dieu lui a donné, l'Évangile, Injil, n'est pas dans le Coran. Ce sont des livres qui sont à part. Ah, maintenant je me dis, mais où est-ce que je vais trouver Taurat, le Pentateuque? Où est-ce que je vais trouver Injil, l'Évangile? Puisque ce n'est pas dans le Coran. Le Coran me dit de croire à ces livres-là. Je ne vais pas croire quelque chose que je n'ai pas lu. Alors j'ai pensé, est-ce qu'ils sont dans la Bible? Si ces livres sont dans la Bible, j'en avais jeté à la mer. Et puis je reviens et je me pose la question. Si ces livres étaient faux, le Coran n'allait pas me dire de croire. C'est parce que ces livres sont vrais que le Coran me dit crois et obéis au livre de Moïse et de Jésus. Alors je me dis, la troisième question que je posais, et si j'ouvre le livre de Jésus, qu'il me dit cette phrase que les chrétiens m'avaient déjà dit. J'ai entendu les chrétiens me dire une fois quand ils venaient m'évangéliser, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si j'ouvre le livre de Jésus, qu'il me dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Walhak, la vérité, Walhayat, la vie, Leïsaharat, pas un seul, il a année qui ne vient à moi, il habille, il ne peut arriver au Père. Si je dis, Jésus me dit qu'il est le seul chemin pour arriver au Père, au ciel, je fais quoi? Le Coran me dit, crois et obéis. Si j'obéis, je suis Jésus. Et si je suis Jésus, je deviens chrétien. Et si je n'obéis pas, je désobéis à l'ordre du Coran. Alors c'était un dilemme, je me voyais radicalement poussé par le Coran vers les livres qui composent la Bible. Au lieu de trouver que la Bible est fausse, je trouvais la confirmation des livres qui composaient. Alors, j'ai fermé ce soir-là, je suis allé me coucher, c'était un peu fort. Et puis, le Coran qui me pousse vers la Bible, le lendemain, je viens et il me dit, prends ta Bible, prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. Parce que Jésus, il est vraiment la pierre d'achoppement entre tout, l'islam et le christianisme. Jésus, voilà, le Coran, la voix dit, prends le Coran, cherche des informations concernant Jésus. Et j'ouvre le Coran. D'abord, je trouve ce qui m'a touché, ce sont les titres de Jésus. Dans la quatrième sourate, le verset 171, c'est un verset qui parle, qui fait ressortir quatre titres de Jésus. D'abord, il dit Issa Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Et dans tout le Coran, Jésus est le seul qui soit la parole de Dieu. Deuxièmement, le deuxième tout dit Jésus, Issa, Ruhla, Jésus, esprit de Dieu. Dans le Coran, Jésus est aussi l'Esprit de Dieu. Et personne d'autre dans le Coran, parmi les humains, que Jésus qui est la parole et l'Esprit de Dieu. Et le troisième titre, dans ce verset 171 de la quatrième sourate, c'est Al-Masih, le Messie. Jésus est le Messie. Et il n'y a pas d'autre Messie dans le Coran que Jésus. Alors, ça commence à être... Et puis après, il dit... Un autre titre singulier, celui-là, Issa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie. Jésus, le fils de Marie. La question qui me vient en tête, qui est son père? Quel est le nom de son père? Pourquoi il est nommé après sa mère, fils de Marie? Le prophète de l'islam, c'est Ibn Abdallah, fils d'Abdallah. Moi-même, je suis Koné, c'est parce que mon père est Koné, je m'appelle Moussa, Koné, parce que mon père est Koné, ma maman n'est pas Koné. Mais pourquoi Jésus est nommé après sa mère? Et qui est son père? Pas de réponse, pas de réponse dans tout le Coran, sauf dans la 19e sourate, il dit, à partir du verset 16, nous avons envoyé notre esprit, le Coran parle à la au pluriel, nous avons envoyé notre esprit qui a pris la forme humaine devant Marie, Mariam, et nous avons dit, je suis l'envoyé du Seigneur chargé de te donner un enfant. Mais ils ont mis un enfant saint, un enfant sans péché. Voilà comment il est conçu. L'Esprit de Dieu est venu parler à Marie dans le Coran. Il a pris la forme d'un ange dans le Coran et dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant saint. Elle a dit, mais je ne suis pas dissolu, je ne connais pas d'homme. Il dit, kun fayakun. Kun fayakun, le temps de clignement de l'œil, ce que Dieu dit est réalisé. Donc comme ça, elle était enceinte. Alors l'Esprit lui dit, l'ange lui dit, tu seras enceinte, tu auras un enfant saint. Et là, en même temps, ils ont signifié, les commentateurs ont signifié un enfant saint, est un enfant sans péché. Et si bien que l'autre chose que j'ai découvert de Jésus, c'est son état sans péché. Dans tout le Coran, le seul, il est considéré comme prophète aussi, mais le seul prophète qui n'a pas péché. J'ai vu le péché d'Adam, le péché de David, le péché de Jonas, et même Mohammed, c'est la sourate 19 et aussi la sourate 48, il dit, demande le pardon de tes péchés et nous te les accorderons. Il n'a pas signifié le péché, mais on lui dit de demander le pardon pour ses péchés. Ça veut dire que le prophète de l'islam, lui aussi. Mais Jésus, il n'y a pas de péché. Il n'a jamais péché. Chaque fois, il donne la vue aux aveugles, il donne à manger aux affamés, il ressuscite les morts, et puis il ne fait que des miracles. Il annonce la bonne nouvelle dans le Coran, c'est ça qui est dit. Et puis, il n'a pas de péché. Ce soir-là, j'ai fermé le Coran avec douceur et puis crainte à l'endroit de Jésus. J'ai dit, celui-ci, ou tu le rencontres sur terre, ou là-bas, parce qu'il est la parole de Dieu, c'est lui qui va juger. Après, le lendemain, j'étais là, et la même voix qui sonna à mon oreille me disait, prends le Coran et cherche des informations par rapport à la crucifixion de Jésus. Vous savez, même quand vous êtes seul, si vous cherchez Dieu, vous le trouvez. Il n'y avait personne avec moi. J'ai résisté à l'évangile. J'ai insulté les chrétiens. Je leur ai souvent craché au visage. Mais tout seul, avec cette recherche, j'entends la voix qui me dit, prends ton Coran. Cherche pour la crucifixion de Jésus. Ah, ce soir-là, je suis allé m'asseoir dans ma cabine. Et là, j'ai ouvert le Coran. La 4e sourate. Et deux versets, 156 à 158. Il dit ceci. Wa kaulirum, ils disent, Inakatalna al-Masir, nous avons tué le Messie, Rasulallah, le messager d'Allah. Wa makatalour, ils ne l'ont point tué. Wa masalabour, ils ne l'ont point crucifié. Bal raf Allah, Allah l'a élevé au ciel, vivant. Le verset dit que Jésus n'a pas été tué, que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il a été élevé au ciel, mais qu'une autre personne qui lui ressemblait a été crucifiée à sa place. Voilà le contenu de la sourate 4, versets 156 à 158. Et là, il s'est passé un moment de courte joie dans mon cœur. Je dis, enfin, voilà, j'ai quelque chose contre la foi chrétienne. Ils disent que Jésus est crucifié, mais le Coran dit non. J'étais heureux, c'est bien fait pour les chrétiens. Et cette voix est venue encore. Mais est-ce que tu es sauvé? Donc là, j'ai commencé à analyser. Les deux versets ne disent pas qu'il n'y a pas eu de crucifixion. Il y a eu crucifixion, selon le Coran. 156 à 158. 158. Mais la personne crucifiée n'était pas Jésus. Jésus fut enlevé au ciel au bon moment, pendant qu'il allait se faire prendre par quelqu'un qui était un de ses disciples, qui a conduit les gens pour l'arrêter et arriver à proximité de sa maison. Selon le Coran, les commentateurs ont eu tellement de difficultés qu'ils ont suggéré même quelque chose comme une légende par rapport à ça. Jésus avait sa maison là et un de ses disciples l'avait trompé. Il a amené les ennemis de Jésus pour l'arrêter. Mais à proximité de la maison de Jésus, il a dit, restez embusqués là. Moi, je vais voir dedans s'il est là et vous viendrez le chercher. Mais lui, quand il ressortait de chez Jésus, il avait le visage de Jésus, mais son propre corps. Donc, on l'aurait pris, on l'aurait amené. On l'aurait crucifié et tout le monde a cru que c'était Jésus et ce n'est pas Jésus. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur ça. J'ai dit, ah, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qui est l'acteur principal? C'est-à-dire, qui fait tout dans ces deux versets? Il est clair que c'est Allah, le Dieu du Coran, qui fait tout dans ces deux versets. C'est-à-dire, c'est lui qui a mis la ressemblance de Jésus sur une tierce personne. Et là, tout a commencé. Et cette personne, on l'a prise pour Jésus. Donc, c'est clair dans le Coran que Allah a mis la ressemblance de Jésus sur quelqu'un d'autre. Et cependant, au même moment, le vrai Jésus qui était là, il a enlevé divinement pour l'amener au ciel. Il n'y avait sur la terre que le faux, dont lui, le sosie, quoi. Et puis on l'a amené. Donc je me suis dit, mais est-ce que Dieu, il peut tromper les gens? Parce que en fait, si Jésus n'a pas été crucifié, que c'est quelqu'un qui portait sa ressemblance qui a été crucifié, et que c'est celui-là, c'est Dieu même qui a mis, selon les musulmans, selon le Coran, c'est Allah qui a mis la ressemblance de Jésus sur quelqu'un d'autre, qui n'était pas le vrai Jésus, qu'il a été crucifié à la place de Jésus. Tout le monde croyait que c'était Jésus. Alors il y a quelqu'un qui nous a tous trompés. Et la personne qui nous a tous trompés, je cherche le Coran, les versets plus en haut, c'est Allah qui a falsifié, qui a fait ça. Je dis, mais est-ce que Dieu peut nous tromper? Et puis je dis, mais après tout, est-ce que Dieu il a peur des hommes? Parce que il pouvait enlever le vrai Jésus et puis personne ne peut faire quelque chose. Mais quand il a enlevé le vrai Jésus, il n'y avait sur terre que le faux. C'est-à-dire, il a enlevé toute preuve pour découvrir le vrai, le faux. Le vrai est parti, il n'y a que le faux sur toute la terre. Et c'est comme s'il essaie d'effacer les traces de ce qu'il a fait. Je dis, c'est pas possible. Il nous aurait trompés. Et c'est comme s'il avait des comptes à rendre aux hommes. Et alors, il y a quelque chose qui se passe, c'est que si le vrai Jésus était sur terre, qu'on a même crucifié le faux, un de ces jours, tôt ou tard, on allait trouver le vrai. On allait se rendre compte de l'erreur qu'on a fait là-bas. Mais s'il n'y a pas sur terre, si le vrai n'est pas là, et que c'est la même personne qui a mis la ressemblance du vrai sur une autre personne, qui a enlevé le vrai au ciel, là, il a trompé tout le monde. Et il a enlevé toutes les fautes. Je dis, mais ce verset, Dieu peut-il tromper quelqu'un? Et la réponse est que Dieu est juste. Dieu ne peut jamais tromper quelqu'un. Alors, c'est ce jour-là que j'ai compris et j'ai conclu que ce verset n'est pas vrai. Parce que Dieu ne peut pas tromper les hommes. Et là, ce jour-là, ma foi chrétienne, musulmane, était tombée. Parce que je m'étais aperçu d'une falsification, d'une machination. Et de la part de la divinité, non, c'est faux. Donc, qui avait ce verset-là? Non. Ce jour-là, toute ma crédibilité pour le chrétien, pour le Coran, est tombée comme ça. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas tromper. Dieu n'a pas menti. Dieu ne trompe personne. Dieu n'a peur de personne. Si c'est tel est le cas, c'est que le verset, il est faux. C'était ma conclusion là, sur ce point-là. Je suis allé péniblement dormir ces jours-là, avec beaucoup de déceptions. Donc, ils étaient confrontés à penser, à croire plus que Jésus est crucifié que non. Parce que le lendemain, je reviens, la même pensée, encore, cherche. Et là, je tombe sur la troisième sourate, troisième chapitre du Coran, le verset 55. Verset 55 du Coran. Ce que je découvre dedans, ici il y a un dialogue entre Jésus dans le Coran et Allah son Dieu, selon le Coran. Ici Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. La première partie du verset, il dit à Jésus, je te fais mourir et je te lève à moi. Une personne qui est morte et qui est élevée, ça veut dire qu'elle est ressuscitée. Donc là, selon le Coran, c'est tellement clair, il faut comprendre un peu l'arabe ici. Là. Il y a deux verbes, le verbe mourir et le verbe élever. Il dit, Isika lalar, ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa, c'est une conjonction, c'est comme et. Je te fais mourir, warafiuka, et je te lève à moi. Je te fais mourir et je te lève à moi. Donc les deux verbes sont collés par une conjonction, la mort et l'élévation. Donc ça veut dire mourir et ressusciter. Là, j'ai commencé à penser. C'est que Jésus est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. C'était clair. C'est de l'arabe. Pour tout, même si tu es l'imam de la Mecque, Izikalalar, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève en moi. Je te ressuscite. C'est complet là. Alors, l'autre question que je me suis posée, alors, c'est qui est sûr, Jésus est mort et ressuscité. Mais je veux savoir de quelle mort il est mort. Est-ce qu'il est mort d'une mort douce ou quoi? Mais ce qui est clair, il est mort et ressuscité. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le verbe qui a été mis là comme mis à mort. Voilà. Le verbe qui dépeint la mort, il faut le prendre et chercher à l'approfondir, comprendre plus s'il y a quelque chose qui ressemble à la crucifixion. Alors, l'arabe est plus riche. C'est la même racine que l'hébreu, que le français. Hein? L'arabe et l'hébreu, c'est la même racine. Donc, plus riche que le français. Maintenant, « Inni mutawafika, je t'ai fait mourir », l'infinitif, c'est le verbe « tawafa ».« Tawafa », je prends « tawafa ». Qu'est-ce que ça veut dire plus profondément? Ça veut dire quoi, tawafa? Parce que pour moi, il n'était pas question de me tromper. Je vous assure, on peut vous tromper pour toute chose. Mais pour le salut de ton âme, que personne ne te trompe parce que ça ne peut pas se refaire. Je ne tenais pas à me laisser avoir. Donc j'ai dit, je veux savoir, tawafa, y a-t-il quelque chose dans ce verbe tawafa qui aille vers la crucifixion? C'est pas compliqué. J'ai trouvé trois interprétations. La première, tawafa, c'est une mort violente toujours. Quand il y a eu une mort, et qu'elle a été, c'est suite à une violence extrême, on va mettre le verbe tawafa. C'est pas le seul verbe en arabe qui dépeint la mort, mais si la mort est violente, on met tawafa. Donc la crucifixion est aussi une mort violente. Deuxièmement, tawafa, c'est mourir pour payer une dette. Mourir pour payer une dette, ça c'est fort. C'est-à-dire quand il y a une dette élevée, que ça peut pas, financièrement, on ne peut pas payer la dette, que c'est, même pas avec du diamant, il faut la vie d'une personne pour que la dette soit payée. Et si on a mis quelqu'un à mort, on va lui dire il est mort, la dette est payée, mais on va mettre tawafa pour dire que cette mort-là a payé la dette. Et le sens de la crucifixion, c'est une dette qui est payée au travers de la mort de Jésus. Donc tawafa aussi, et c'est mourir pour payer la dette du péché. Donc c'est la crucifixion. Troisième interprétation, tawafa, c'est mourir aussi pour atteindre un but. Jésus avait un but à atteindre, c'est de sauver l'humanité, c'est de sauver les gens, ceux qui croiraient en lui. Donc, tawafa, quelqu'un est mis à mort et un but est atteint, on va mettre tawafa, il est mort et le but est atteint. Donc, dans toutes les trois interprétations, manifeste, donne l'image de la crucifixion. J'ai conclu alors que dans le Coran, Jésus est mort et par crucifixion et ressuscité. Là, ce soir-là, c'était fini. C'était fini de ma foi musulmane. Je n'ai plus jamais prié comme musulman. Et j'étais sur la plateforme, mais j'étais plus angoissé parce que je ne savais pas comment adorer Dieu. Je ne connaissais aucune autre forme d'adoration que musulmane. Maintenant que je ne peux pas faire comme musulman, je ne sais pas comment adorer Dieu. C'est là que j'ai compris que tout être humain est en réalité créé pour adorer Dieu. Il y avait un vide encore plus grand en moi. Je sais que je ne suis pas... Ça a mis 9 mois de recherche. Je sais pendant 3 mois que je ne suis pas sauvé dans le Coran. 3 mois qui ont suivi, se complétant à 6 mois, j'ai vu Jésus comme... étant la Bible comme... étant la vérité témoignée par le Coran, ça faisait 6 mois. 3 autres mois, j'ai vu Jésus sans péché et mort et ressuscité. 3 mois durant. Je sais, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas faire esprit de prier comme musulman. Moi, je cherchais le paradis, ce n'est pas la religion qui m'intéressait. Donc, j'arrête de prier comme musulman. Maintenant que j'ai arrêté de prier comme musulman, comment faire pour adorer Dieu? Un autre problème. Une autre difficulté. Nous sommes créés pour un but, adorer Dieu, pas autre chose. Et là, finalement, cet état aussi de no man's land, ça venait à la limite. Je dis, mais il faut affronter cette situation. Il faut que je parle à Dieu, je sais qu'il existe. Je laisse
les recherches, les choses scripturaires, je veux parler à Dieu, il existe. Il va me répondre. Je m'assois dans ma cabine. Il était 21h. Je dis à Dieu, tu sais, je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Et tout l'héritage est pour moi. Je suis un maillon d'une grande chaîne d'imams. Mais je n'arrive pas à prier comme musulman parce que je sais que je ne suis pas sauvé, que Jésus est crucifié et la Bible est la vérité témoignée par le Coran. Donc, je ne sais pas quoi faire. Toi, tu sais ce que tu peux faire. Parce que si je deviens chrétien, je brise la chaîne des imams. En plus, je vais perdre mon héritage. Je me fais persécuter, je me fais maudire. Donc, je n'ose pas y penser. Mais toi, tu es Dieu. Fais ce que tu veux. J'ai besoin, moi, de t'adorer, de savoir quoi faire. C'était logique. J'allais dire même, c'était légitime. C'était 21h. Dieu a répondu au bout de 30 minutes. Il est très responsable, hein, surtout pour le salut de l'âme de quelqu'un. Il va donner la réponse. Et quand j'ai fini de poser la question, de parler comme ça avec Dieu, j'ai éteint la lumière mécanique dans ma cabine. Je voulais me coucher. C'est alors qu'il y a eu une grande lumière qui s'est faite. La lumière qui est faite, je suis étonné, j'ai éteint la lumière. Mais quelle est cette lumière-là? Je suis étonné. Le temps que je reviens de ma surprise, il y a quelqu'un dans ma cabine, là, tout près de moi. J'avais peur. Parce que on est en pleine mer et la loi de la navigation ne permet pas qu'on ouvre une seule porte quand on est en pleine mer. Mais tout est en fer. Par où il est rentré? J'en sais rien, mais il est là. Et j'avais peur. Mais j'ai dit, si j'ai peur, ça ne sert à rien. On n'est que deux. Il faut prendre courage. Il faut s'encourager. Je lève la tête. Je regarde le visage. C'est un visage d'amour. Un visage de compassion. Et pour résumer ce qu'il a dit, il dit, Moussa, tu as toutes les informations. C'est-à-dire, tu as tout entendu. Tu as entendu ce que tu devrais entendre. Tu as vu ce que tu devrais voir. C'est à toi de décider. Et puis juste après, les ténèbres, plus de lumière. Alors moi, je cherche l'interrupteur mécanique, je rallume. Et puis je le cherche partout, je ne le trouve pas. Et il est déjà parti en me responsabilisant. J'avais toutes les informations. J'avais entendu ce que je devais entendre. J'avais vu ce que je devais faire. La décision était de mon côté. Tu sais, pour aller au ciel ou au paradis, si tu veux, tout est déjà fait. Ça dépend de toi. Tu dois décider. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton épouse ou ton époux. Même ton leader spirituel. C'est toi-même qui dois décider de rentrer au paradis. Tout est fait. Je suis resté assis. Mais cette question dans ma tête, c'est à moi de décider. Je dois prendre une décision. Jusqu'à 6 heures du matin. Je n'avais pas dormi toute la nuit. Je repars travailler. Le soir, j'ai fini. Je suis là. Dans ma cabine, je m'assois encore. Je dis à Dieu, hier, ce n'était pas suffisant. Je ne vais pas éteindre la lumière. Mais aujourd'hui, dis-moi ce que je dois faire, à part ce que tu m'as déjà dit. Dis-moi, je n'éteins pas la lumière, j'attends de toi. Bon, je suis resté assis. 5 minutes, rien vu. 10 minutes, rien. Pas de manifestation. Environ 20 minutes, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait que le Coran sur ma table. Donc, je prends le Coran et je plonge dans la lecture. Je commence à lire avec appétit. Et je constatais que mon cœur revenait encore dans le Coran. Je lisais pendant que j'étais plongé dans la lecture, tout envolé dans le Coran, toute ma foi musulmane qui commençait à revenir dedans là. C'est alors que du côté de la page droite, je vois une braise enflammée, une petite braise enflammée qui était sur le livre, qui perçait les feuilles. Et le temps que je regarde bien, il y eut une succession de braises qui venaient d'en haut, en dessous du plafond. Ça tombait que sur le livre que j'avais dans la main. Pas ailleurs. Et en quelques secondes, tout était flambant entre mes mains. Terrifié, je n'eus pas l'idée de rejeter même. J'étais attaché au livre. Et puis j'attendais à recevoir les brûlures dans ma main. C'est en ce moment que la couverture de carton dur s'est complètement consumée. Et puis moi, j'avais rien. La cendre. Rien que la cendre noirâtre. Tout est parti en fumée. Là, la question était, comment je peux parler à Dieu et puis il va brûler son livre. J'étais terrifié, j'étais là comme ça. Jusqu'au matin, ça faisait 2 jours, 2 nuits sans dormir. Et ce soir-là, quand je suis revenu, le lendemain, après le travail, 3e nuit, je suis revenu. Je n'ai pas osé demander quelque chose à Dieu encore. J'ai dit, je ne veux plus d'autres actions. Je ne veux pas voir d'autres signes. C'était trop, là. C'était trop. Ces 9 mois étaient remplis d'événements. J'étais renversé, je ne pouvais plus rien demander. Et puis j'ai eu la pensée, ok, si je dors, je vais rêver. Et si je rêve, il va en profiter pour me montrer quelque chose. Donc, vaut mieux pas dormir. Donc, j'ai fait 3 jours. J'ai lutté avec le sommeil. 3 jours, 3 nuits. 4e nuit, ce n'est pas dormir. Lutter durement avec le sommeil. Je ne veux rien voir. Je ne veux rien savoir. Ça suffit comme ça. Ça suffit, je ne veux pas. C'est bon comme ça. 5e nuit, je suis venu m'asseoir encore. Logiquement, tu ne fais pas 3 jours, 3 nuits sans dormir et puis être normal. Mais on n'était plus dans les dimensions humaines. C'était spirituel. Le cœur de Dieu, le ciel, c'est une affaire qui concerne Dieu. Ce n'est pas des calculs, ce n'est pas la mathématique ou bien ce n'est pas les mathématiques. C'est vraiment le cœur, c'est la foi. Donc, 5e jour, 5e nuit, assis là, je résistais. Et à un moment donné, pouf, le sommeil le plus profond de ma vie, je suis tombé. Alors, j'ai dormi profondément. Alors, il y a eu un rêve. Et il a profité. C'était ça, vraiment, vraiment. À 200 mètres environ de moi, il y avait comme un homme avec les phares, les yeux comme les phares de voiture. Il m'éblouissait et j'étais comme ça. Je me protégeais la vue. Et il venait méchamment sur moi. Et j'avais peur, je reculais. Lui venait fortement sur moi. Moi, j'avais peur, je reculais. J'avais reculé tellement que je ne pouvais plus. À un moment donné, j'ai dit, c'est une confrontation inévitable, il faut faire face à ça. Je me suis arrêté et puis j'ai commencé à marcher avec détermination sur lui maintenant. Je marchais vers lui, on allait se faire un crash, on allait se rencontrer et je vois que lui, il s'arrête. Il s'est arrêté et je venais vers lui. Et c'était lui maintenant qui voyait la détermination en moi. Et puis, il reculait. Moi, je fonçais sur lui, il reculait. Et puis, je dis, mais attends, je veux savoir qui tu es. Il me dit, tu me fais peur. Tu me fais peur. Et puis, il récitait le credo de l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète. Je dis, attends, je vais voir qui tu es. Il dit, tu me fais peur, il reculait. Et je me suis réveillé. De ce rêve, j'ai compris que là, il y avait quelque chose en moi qui était plus fort qu'en lui. Et je me suis réveillé de ce rêve. Et l'interprétation de ce seul rêve, c'est la fuite de l'islam. C'est l'islam qui partait loin de moi, avait peur de moi. Et j'ai conclu alors que je ne pouvais plus rester. Et pendant 9 mois de recherche, il n'y a pas de salut, pas d'assurance de salut dans le Coran. Jésus est sans péché, il est mort, ressuscité, crucifié, et puis il a les titres au-dessus des autres, ça me suffisait. 9 mois durant, Donc j'avais maintenant, ça correspondait aussi à la fin de mon contrat de 7 ans, de 7 ou 8 ans à bord, 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus, à bord, je devais débarquer ou chercher à renouveler le contrat, mais je n'ai pas renouvelé. Donc débarqué, je suis parti, j'ai trouvé cet Américain-là, et puis je lui ai raconté toute l'histoire. C'est là qu'il m'a dit. Il m'a regardé en face. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec toute cette histoire? J'ai dit, j'ai pas d'autre alternative. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est là que je ne connaissais pas la prière chrétienne, mais j'avais développé l'habitude de parler avec Dieu. Et j'étais là. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Devant lui, il était assis. Je demandais pardon à Dieu. Je ne m'occupais pas de quelqu'un. Je demandais pardon à Dieu. Ah, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'écoutait. J'ai senti une oreille très attentive. Je demandais pardon à Dieu pour tous mes nombreux péchés. Et à un moment donné, je reçois comme ça fortement dans mon cœur que mes péchés sont pardonnés. Et je continue. Je sens qu'il a pardonné mes péchés. Et je continuais encore de lui parler. Et après que j'ai reçu le pardon de mes péchés, la certitude de ça, il y a un autre événement qui s'est passé, quelque chose d'autre qui s'est passé en moi, c'est la peur de la mort qui sort de moi. Puisque mes péchés sont pardonnés, la mort ne me faisait plus peur. Elle avait perdu tout son pouvoir sur moi. Tout son pouvoir. La mort s'est sortie de moi comme si quelque chose qui fuyait. Mes péchés sont pardonnés. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Mes péchés sont pardonnés. Si la mort n'a aucun pouvoir sur moi, qu'elle est partie, c'est la vie qui rentre. La vie éternelle. Alors Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est Jean 5, 24. Là, je venais de recevoir la vie éternelle, que je ne serai pas jugé. J'étais mort et je suis vivant. Pour l'éternité, je vais demeurer vivant. Vous savez ce qui va se passer à ce grand jour-là? Là, il sera sur le trône, assis. Ceux qui l'ont percé le verront. Chacun verra le film de sa vie. Je connais pour moi, je ne connais pas pour toi. Quand mon tour va arriver, Moussa vient ici. Voilà comment tu as péché. Voilà comment tu as péché. Voilà comment tu. Un ange dira, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Il va jouer le procureur. Il va dire, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Mais celui qui est assis sur le trône, il va dire, fini. Ça a été fini. 25 décembre 1987. Il a cru à mon sacrifice, mon sang l'a purifié. Il va dire, Moussa, passe ici, viens là, près de moi. Ça, c'est du spécial Jésus. Il prend le pécheur de son état, il lui donne un nouveau statut. C'est ça. Et c'est ce que Pierre a dit. Christ a souffert une seule fois pour le péché. Lui, juste pour des injustes. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Jésus a souffert une seule fois pour nous amener au Père. Et donc j'étais là, sauvé pour de bon. Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé. C'est le nom de Jésus. Donc toute cette ascension, j'avais tout reçu comme ça. Et j'étais, à l'époque, mon aspect était différent. Oh, tout jeune, 35 ans, j'étais très à la mode, vous comprenez. C'était l'époque des chevelures à faux, comme des cases rondes, j'avais comme ça. Même quand je travaillais souvent sous mon casque, je mettais tournevis, un peu long comme ça, dans mes cheveux, en attendant. Donc, j'étais là comme ça, avec un blue jean, pantalon, une jacket en jean. Un t-shirt en bas avec l'effigie de Che Guevara, une chaîne qui arrive ici, des gourmets, des tout ça, l'argent. Mais je commençais à pleurer, mes larmes coulaient. couler, je savais que des larmes de joie cette fois-ci. Je suis sauvé enfin. Et j'ai la vie éternelle. Je n'ai pas peur de la mort. La mort n'a aucun pouvoir. Les aiguillons de la mort ne peuvent pas m'atteindre. Et puis, lui, quand j'ai ouvert les yeux, l'Américain, il était spectateur, il me regardait, il n'a même pas pu. Et puis, c'est mon tour, je lui ai serré la main. Je dis, il s'appelle John. Je dis, John, you know, I'm saved. Moi aussi, je suis sauvé maintenant. Alors, je suis sorti de chez lui. Et je partais. Devant sa maison, il y a un service de poste, postal, la poste. Il y a beaucoup de personnes là qui vendent un peu tout. Et puis, j'étais concentré sur tout ce qui m'arrivait. Et je me suis arrêté un coup, mais il y avait la foule autour de moi. Je n'ai pas fait attention. J'avais mon affaire, je vivais dans mon univers. Je fermais les yeux et puis je voyais passer les péchés, tout ça, tout ce que j'avais fait. Et la voix qui dit, voilà comment tu étais, mais tu n'es plus comme ça. Mais je t'ai tout pardonné, tu es bien. Ça a duré 10 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un attroupement là. Des gens qui me regardaient, avec tout, comment j'étais habillé, tout ça. Ils me regardaient, une dizaine de personnes. Il y a un qui est le plus âgé, il est venu, il m'a dit, ah, jeune homme, qu'est-ce que tu as? Il a dit en français, il ne voit rien. Il dit, il y a quoi? Jeune homme, il y a quoi? Je lui dis, qu'est-ce que je peux dire à cet homme-là? J'ai dit, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il est retourné dire à son groupe, j'ai entendu dire que regarde, le jeune, là, il devient fou. En fait, je devenais fou. Il y a une folie qui avait commencé. C'est la folie de Dieu. Elle dure 28 ans. Depuis aujourd'hui, je suis plus que fou pour Dieu. Et donc, je partais comme ça, aux arrêts de bus, sans connaître la Bible. Je disais à tout musulman que je croisais, ce que je sais, je suis le fils de l'imam, là, à la mosquée, là. Je te dis, sors de l'islam, tu ne peux pas arriver au paradis. Je ne sais pas comment on évangélise. Je dis, sors de l'islam, deviens chrétien. Je dis, mais regarde. Et j'avais des loupes à l'époque. Je portais du moins 8, maintenant c'est du moins 4. Alors, il y en a qui me giflaient, ils me giflaient. On gifle, mais les lunettes tombent, je les récupère. Puis je l'attrape. Non, mais si tu vas sans Jésus, tu risques d'aller en enfer. Mais dans cette manière innocente, il y avait 50 personnes qui ils se sont dit, mais quand même, il n'est pas bête, c'est le fils de l'imam. Attention, il nous a conduits dans la prière, mais ce qu'il dit, c'est, il y a un sens. 50 personnes, au bout de 3 mois, musulmanes se sont données à Jésus, mais juste après, c'était... Tellement que je parlais de ce que j'avais vécu, je ne peux pas me taire. Il y avait un feu à l'intérieur de moi. Je disais à tout le monde, une semaine, juste 3 jours. 3 jours après, tout le monde entendait. Un peu partout. Donc, je m'étais fait des ennemis comme ça. Ah, ils m'ont fait du mal. Je ne savais pas, moi, je disais ce qu'il fallait dire. J'aime Jésus, je le découvre, je ne peux pas me taire. J'ai dit à tout le monde, les gens se convertissent. Mon pasteur, l'Américain, était un pasteur, un missionnaire près des musulmans. Il avait un don pour ça. Il m'a expliqué un peu comment il faut évangéliser, pas comme ça. Mais j'étais déjà connu, étiqueté, on me cherchait partout. Pendant 4 ans, j'étais caché dans mon pays. Et mais chaque fois, une fois, j'étais dans le bus, il y a 2 personnes qui sont venues. Pendant que il y a un qui m'écrasait l'orteil. L'autre avait sur son boubou un couteau. Il dit, tu descends là. Il y avait un grand jardin noir là. Tu descends. Descends, ils m'ont forcé à descendre. Les autres ne m'ont pas parlé. Hein. Ils avaient peur. Ce jardin-là, moi, je me suis réveillé plus tard. J'étais en sang. Ils ont pensé que j'étais mort. Je me suis réveillé, c'est pas, il était 3h du matin. Il y avait du sang partout. Je me suis traîné jusqu'à la petite maison où j'habitais. Et puis je suis resté dans le sang là. Jusqu'à 15h de l'après-midi. Il y a quelqu'un qui passait, il y a un frère qui a dit, mais il y a longtemps, je ne l'ai pas vu depuis aujourd'hui. Il est passé, j'avais le sang séché sur mon corps, celui qui m'a amené à l'hôpital. Alors mais, j'ai tout a été cassé, ils m'ont tous abandonné. Tout abandonné. Ma tête était mise à prix. Et donc, j'ai décidé de rentrer dans un studio. Mais caché, je suis allé au studio Baptiste Média Baptiste me dit à Marcory, résidentiel. Je suis rentré, j'ai dit, je vais raconter mon histoire. Le directeur était un Américain, il dit, quoi, tu veux raconter ton histoire? Je lui raconte l'histoire, il dit, waouh. Ils m'ont laissé le studio. J'ai parlé, j'ai tout raconté. J'ai dit, parce que ils risquent de me tuer, je ne veux pas partir avec tout ça. Mais je veux enregistrer. Si jamais je ne suis pas là, quelqu'un va entendre ça et se convertir. C'était le but. Mais le contraire s'est passé. Je suis resté en vie 28 ans après. Et ça a été traduit dans plusieurs langues. Et me voici ici. Une fois, je me suis, pendant la guerre, ce dont il parlait, je me suis retrouvé là. On nous recherchait, tous ceux qui étaient pasteurs. Ils ont confondu si tu es pasteur, tu es pour le pouvoir qui a été enlevé, le président qui a été enlevé. Ils confondaient tout. Si tu es chrétien, tu as des problèmes. Si tu es pasteur, c'est grave. Donc, l'église était là. Ça, c'est récemment. Je partais à l'église et puis je vois devant moi juste il y a 50 soldats qui avaient fait... Les treillis étaient séchés de sang. Et m'ont vu, je les ai vus. Tous ceux qui passaient, ils les contrôlaient. C'était à l'entrée de l'église, le petit chemin qui mène à l'église. Donc je ne pouvais pas faire demi-tour, au risque qu'ils vont tirer sur moi. Bon, j'ai marché. Au barrage, je suis passé. Ils s'occupaient des uns et des autres à côté. Je suis passé jusqu'à ce que je rentre dans mon bureau. Je n'ai pas su. C'est quand, sur les carreaux, j'ai entendu des pas derrière moi. Il y en avait un qui avait sa mitraillette juste dans mon dos. Il m'avait suivi, quoi. Jusque-là. Alors, je me suis retourné. Mais c'était chaud, hein. J'ai bien pensé que c'était la dernière minute, là. Je l'ai vu, là. Mais j'ai pris mon courage, quand même. C'est passé derrière mon bureau. Et puis, je lui ai demandé, mais... Chef, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me suivez avec votre... Maintenant, la réponse du monsieur, c'était... Il dit, quand vous marchiez, je vous ai suivi avant le barrage, pendant que vous traversez le barrage et après le barrage. Quand vous passez, je voyais en vous une grande liberté. C'est comme vous sentiez à l'intérieur de vous que vous êtes libre. Vous vous rendez compte de ça? Et moi, j'avais peur. Lui voyait la liberté. J'avais honte de moi-même. Et je lui dis... Je dis, c'est vrai. Je suis libre, je sens à l'intérieur la liberté. Il dit, mais comment ça tu peux être libre comme ça? Je dis, c'est Jésus. Il dit, c'est qui Jésus? C'est un musulman. Un homme du Nord. Jésus, c'est qui? Je lui ai expliqué dans la langue. Qui est Jésus? Il dit, lui aussi, il veut être libre. Est-ce que je peux être libre aussi, moi? J'ai dit, oui, tu peux. Si tu donnes ta vie, tu seras libre. Alors, il dit, c'est pas possible, je ne peux pas être libre parce que j'ai trop tué. Il a pris 2 heures de temps pour me raconter combien il a tué de personnes. Et puis, il m'a dit à un moment donné, monsieur, est-ce que vous pouvez boire le sang humain? Je dis, non. Il me dit, des fois, je n'ai pas utilisé mon fusil, j'ai utilisé mon poignard, j'ai dépecé, puis j'ai bu le sang. Je dis, non, je ne savais pas devant qui j'étais là. C'est l'un des plus dangereux du groupe de 50. Et puis il pleurait quand il disait ça. Il dit, je ne peux plus dormir parce que quand je me couche, je vois tous les visages que j'ai tués. Quand il a fini pendant 2 heures, raconté pendant 2 heures comment il a tué. 2 heures de temps. Et puis je lui dis, tu as fini. Mais il était baigné de larmes aussi. Je lui dis, maintenant tu vas donner ta vie à Jésus parce que sinon c'est fini pour toi aussi là. Et il a accepté. Il a répété avec moi. Après je lui dis, quand il a fini de se repentir, tout ça là, rentre dans mon cœur, Jésus, etc., comme vous le savez. Je lui dis, comment tu te sens? Il me dit, je me sens libre. C'était le plus grand tueur des 50. En une minute, quelqu'un qui a bu le sang humain a senti ses péchés partir. Et la liberté en lui, si le Fils t'a franchi, tu es vraiment libre. Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. Je vois la miséricorde de Christ pour le pécheur. Moi, j'étais pécheur. Mais lui, il était tué. Je n'ai jamais tué. Lui, il a tué. Ça a boosté ma compréhension du salut en Jésus, le sang qu'il a versé. C'est vraiment pour le pécheur des pécheurs. Cet homme, il était devant moi, il se réjouissait. Ah, je sens que je peux dormir maintenant. Je suis content. Je me sens bien. Ça, c'est du Jésus spécial. Il est parti. Il est arrivé à la porte, il est revenu. Il dit, messieurs, comment vous appelez? J'ai dit, Moussa Kone. Et puis, il a regardé le bout de son soulier. Il était là comme ça. Moussa Kone? J'ai dit, oui. Monsieur, vous avez quel problème, monsieur? Il dit, il y a seulement 2 heures du temps, si j'avais su que c'était vous, Moussa Kone, je vous aurais tué. Parce qu'on a reçu l'ordre de tuer le pasteur. Il dit, casser l'église. Il dit, Moussa Kone, le pasteur? Je dis, oui. Il dit, on a reçu, c'est ce que le commandant nous a donné. Mais on a des complices autour de l'église. Quand on a dit au premier, on est venu ici pour casser l'église, tuer le pasteur, le premier, il a dit, à un de leurs complices, il a dit, touchez pas au pasteur. C'est lui qui a fait les routes, tout ce qui est ici, les fleurs et tout. C'est par lui qu'on peut passer maintenant. Il n'a jamais fait du bien, du mal à quelqu'un. Nous ne voulons pas avoir de problème avec Dieu. Il faut laisser ce pasteur tranquille. Ils ont interrogé jusqu'à 10 personnes. Ils ont dit la même chose à peu près. Donc, si bien qu'ils avaient posé les barrages, attendant une action pour pouvoir agir, parce que là, ils n'avaient plus de moyens d'agir. Et c'est cela que, quand Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, il te sauve à ton insu. Pendant que nous étions là, on était wanted. On devait nous tuer. Mais d'autres personnes ont témoigné de Christ. Et il est parti. Et quand il est parti, je le vois 10 minutes encore revenir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le commandant dit de vous appeler. Je dis, moi, le commandant, il me connaît? Il dit, mais comme j'étais ici, que j'avais pleuré. Quand il m'a vu venir, il m'a d'abord demandé, d'où viens-tu? Je lui ai pointé l'église. Il dit, quoi? Toi, tu es allé dans l'église, toi, le plus grand tueur parmi nous. Tu es allé dans l'église, toi, musulman? Il dit, oui, je suis parti. Il dit, mais pourquoi tu as les yeux rouges? Il dit, j'ai pleuré. Toi qui as tué plus que nous, tu as pleuré. Il dit, il y a un homme là-bas, il m'a parlé de Dieu et j'ai vu Dieu. Voilà ce qu'il a dit. J'ai vu Dieu. Alors, tu as vu Dieu, toi, tueur comme ça? Son commandant dit, alors, va l'appeler, qu'il vienne. Nous parler, nous aussi, on veut voir Dieu. Ah! C'est en cela qu'il était venu, mais je le suivais, mais timidement. Parce que ce sont des tueurs. J'allais tout doucement derrière lui. Quand je suis arrivé au milieu de 50 personnes, le sang séché sur les treillis, les muscles avec des gris-gris ici, tout ça. Oh, une odeur de mort sur. Et j'étais là, lui, le commandant, hé, hey, toi, tu as parlé à mon élément, il dit que tu lui as parlé, il a vu Dieu, mais parle-nous, nous allons voir Dieu ici. On veut voir Dieu aussi, parle-nous maintenant, nous voilà, voilà, c'est tout. Je commence à parler, c'est-à-dire que Jésus, oh, c'était timide au départ. 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'était monté. 25 minutes, il y en a un qui était debout, il tombe. On ne l'a pas touché, hein, avec sa mitrailleuse, il tombe de côté et puis commence à trembler là. Et il y a l'autre qui se met à genoux. Le commandant commence à pleurer, il se met à genoux. Parmi les 50, il y avait 11 personnes tremblantes, soit couchées, soit debout, balbutiant, tremblant ou pleurant, qui ont accepté Jésus. Même parmi les tueurs, Jésus est plus fort. Ah, la mort, c'est fini là. J'ai 62 ans. Je suis ressuscité. Un fou de Dieu, les amis. Le mieux pour toi, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Je pense que si quelqu'un parmi nous ce soir est douteux de son salut par rapport de son séjour par rapport à son salut, s'il est douteux, il n'est pas sûr, vivement qu'on prie pour lui ou pour elle ce soir. Parce que le rendez-vous de la mort ne peut pas être différé. Ça ne peut pas être. C'était pas évident qu'on puisse se voir. Moi, je viens de 6000 kilomètres. C'est une rencontre solennelle. C'est une décision divine qui nous a réunis ici. Soit pour t'encourager si tu es chrétien, pour que tu saches que désormais un musulman est pour toi une cible que tu dois amener au ciel. Soit, si tu n'es pas sûr de ton salut, c'est le jour que Dieu a fait pour que tu te repentes. Et là, je vais prier, on va voir. Un musulman s'est converti, un fils d'imam, un imam s'est converti à Jésus-Christ. C'est possible pour tous ceux qui envahissent l'Europe. Vous êtes les petites, vous êtes les petits-fils de Charles Martel qui a bloqué l'avancée de l'islam à Poitiers il y a quelques années en arrière. C'était l'islam physique. Aujourd'hui, l'islam spirituel envahit la France et l'Europe. Au point même que c'est le jihad en groupe, 6000 personnes, 60 000 personnes peuvent entrer dans une nation comme migrants, mais des gens bien portants. Ça, c'est l'État islamiste qui est en train d'envahir l'Europe. Nos politiques, nous devons prier pour eux, ils sont incapables de comprendre la portée spirituelle de cette affaire. C'est le moment dès le moment, c'est ton tour, c'est le tour de l'Église, c'est ton tour. De commencer à prier et de faire quelque chose pour ces soi-disant migrants, en réalité ce sont des jihadistes, même des femmes. Quand ils seront bien ancrés, bien installés, il leur faudra peu de temps pour se lever et noyé. Mais l'Église se lève comme un grain de sénévé invincible. Plus forte que la science, plus forte que la politique, l'Église de Jésus-Christ ne peut pas être battue. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas disparaître. C'est elle qui doit faire le combat. C'est son tour, c'est le tour de l'Église. Et tu es membre du corps de Christ, tu es l'épouse de Christ, tu dois faire quelque chose, tu vas faire quelque chose, tu dois régler ta situation et faire quelque chose pour sauver les nations. Je vais prier. Notre Seigneur, tu es bien vivant. Nous voulons t'honorer au nom de Jésus parce que tu es digne de louange. En grand nombre, peut-être nous sommes chrétiens ici, mais je ne connais pas les cœurs. Y avait-il un doute dans le cœur de quelqu'un par rapport au ciel? C'est quand le doute est enlevé que nous sommes vraiment chrétiens parce que Christ n'est pas un mirage. Il est véritablement mort sur la croix pour enlever le doute. Pour nous donner la certitude de notre salut. Je te prie, Seigneur, maintenant ici, pendant que nous avons la tête baissée, si quelqu'un vraiment sent que, avant cette réunion, il était douteux de son salut, donne-lui aujourd'hui, viens chercher ce qui était perdu, afin que nous soyons une armée toute forte. Nous ne voulons pas que l'un d'entre nous reste en arrière pour être happé par le diable. Merci, Seigneur, tu es vivant. Ma sœur ou mon frère, y a-t-il un doute par rapport au salut dans ton cœur? Si oui, juste lève la main, on va prier pour toi ce soir. Il faut que ce doute sorte. Nous devons être une armée forte par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une seule personne ce soir? Notre Dieu, nous voulons te remercier, nous ne passerons pas toute la soirée, mais merci Seigneur, tu es vraiment vivant. Pour une dernière fois, Seigneur, tu sais, moi je ne sais pas, y a-t-il un cœur qui balançait entre le monde et la foi en Christ au milieu de nous ce soir, présent? Tout est fait pour que la réalité du ciel lui soit octroyée, que les mains tendues de Jésus l'attendent. Que la paix et la joie du Seigneur, de la félicité soit pour la personne, ce soit une certitude, une réalité tangible, vivante. qu'il soit mis à jour, notre Dieu, pour le ciel. Qui es-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Qui as-tu en réalité? Es-tu chrétien? Où vas-tu en réalité? Au paradis ou en enfer? D'où es-tu venu? De la boue du péché? Qui es-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Si tu as la réponse à cette question, moi je sais d'où je viens, de la religion du péché. Où est-ce que je vais? Droit au ciel. Je sais en qui je crois. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Est-ce que tu crois vraiment en celui qui est ton Salvateur? Oh, merci Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide à répondre à la question. Même dans ton lit ce soir, tu peux dire: Jésus, c'est vrai que j'étais à l'église, mais ce soir j'ai entendu l'évangile. Et je crois que mon cœur est ouvert vraiment pour toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur, mon Créateur unique. Tu es celui qui me réconcilie au Père et pour le paradis. Pour nous tous, pour le reste, vous qui êtes chrétiens, nés de nouveau, vous savez que nous avons l'immunité éternelle de Jésus-Christ. Certains cherchent une immunité pour 5 ans ou 10 ans, en tant que dirigeant des nations, pour échapper à un tribunal humain. Mais nous, le Seigneur nous a choisis. Nous sommes des élus avant la fondation du monde. Qui accusera ceux que Christ a élus? Personne. Christ est mort, bien plus il est assis à la droite de Dieu, bien plus il intercède pour nous, afin que nous allions et vidons les mosquées. Que tous ceux qui prient dans les mosquées se trouvent à l'église. Les mosquées doivent être vidées pour que le contenu se trouve à l'église. Car ils cherchent Dieu. Et Dieu ne se trouve que dans l'église de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus. Christ tend les bras, il vous attend. Une doctrine ne peut pas vous sauver, une religion ne peut pas vous sauver. Jésus est une personne qui s'est donnée lui-même. Il est la parole de Dieu devenu un homme. Il n'a jamais péché. Il a pris ton péché sur lui. Il a pris vos péchés sur lui. Il a pris mes péchés sur lui. Afin que lui, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrises duquel nous avons été guéris. Merci, nous avons l'immunité éternelle. Maintenant, droit devant nous, il y a l'islam. Il nous faut de l'amour contre les armes. Il nous faut de l'amour contre l'incompréhension. Il nous faut l'amour contre l'animosité. Il nous faut l'amour contre le crime. Il nous faut l'amour, l'amour, l'amour. Et la puissance du Saint-Esprit se manifestera. La France va retrouver ses racines. Le sang des huguenots baigne encore. Mais le sang de Christ, qui est plus que le sang d'Abel, va laver cette nation de sa souillure pour que l'étendard de Christ soit là-dessus. Là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Prenez courage. C'est votre tour. Tu ne peux pas aller en Syrie pour bâtir une église. Tu ne peux pas aller en Afghanistan, tu ne peux pas aller au Pakistan, tu ne peux pas aller au Yémen, tu ne peux pas aller en Arabie Saoudite pour évangéliser. Oh, tu ne peux pas aller même chez Kadhafi pour évangéliser. Mais ils arrivent. Ils sont les bienvenus aux portes de l'évangile. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, l'Église va en souffrir, mais elle sera plus que vainqueur. Oui, c'est Dieu qui le permet ça. Le dernier assaut, le jihad pour eux, sera la victoire de Christ. Ça va tourner dans le bon sens. Ils vont connaître le vrai amour.
Voilà.
On ne va pas prolonger la soirée, mais je crois, Gilles, tu as dit au début que là, il a donné son témoignage, mais il a bien d'autres choses à donner, en particulier former aussi à parler aux musulmans. Donc ça peut être une prochaine fois. Vous êtes d'accord qu'on le réinvite pour nous enseigner aussi comment aborder l'islam, comment parler aux musulmans. Voilà. Mais encore merci beaucoup à Gilles. Hein. Voilà. Et donc au bout, derrière, vous avez donc les livres, vous pouvez y acheter. Il y a Gilles qui sera là pour vous les procurer. Et en même temps, ce geste va aider aussi le travail là-bas, au Côte d'Ivoire et au Sénégal. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.